France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Don Quichotte.
Don Quichotte de la Mancha, tel est à présent mon nom à inscrire dans l'histoire de la chevalerie, aux côtés de Amadis de Gaulle et Messire Lancelot du Lac.
Avant d'être le héros d'un livre, c'est d'abord le lecteur d'autres livres, les romans de la Table Ronde ou Amadis de Gaulle, qui en Espagne leur fit suite avec un grand succès. Don Quichotte croit tellement en la puissance des livres que, du monde visible qu'il va affronter en plein jour, il attend la production d'aventures et de signes aussi fort que ceux qu'il a lus à la chandelle. Les livres disent le vrai. Don Quichotte, c'est aussi un personnage qui saute hors des pages du texte. Celles-ci sont à peine imprimées pour la première fois en Espagne en 1605 que le fier Hidalgo a déjà pris sa liberté. Et avant même qu'elle ne soit traduite dans toutes les langues, il a déjà franchi les Pyrénées de son propre chef. Peut-être les plus grands livres sont-ils ceux qui n'ont même pas besoin d'être lus pour être élus. Don Quichotte, c'est une matière inépuisable offerte à toutes les mains qui en font à leur goût une figure comique, christique, mélancolique. Quand nous lisons un livre de telle ou telle façon, nous faisons en vérité un choix de vie. Roger Chartier, bonjour.
Bonjour.
Au Collège de France, votre enseignement porte souvent sur les métamorphoses de la lecture et du livre, et puis plus précisément ces dernières années, sur les bons et les rebonds du personnage de Don Quichotte. Quand le livre paraît en 1605, l'Espagne a déjà une dimension mondiale et le livre va partir dans tous les sens, vers tous les points du globe.
Oui, c'est un fait assez étonnant pour l'édition ancienne. 5 éditions la même année, en 1605. Et immédiatement, une circulation, comme vous le dites, européenne, parce que l'espagnol est une langue qui est connue, au moins par les élites. C'est la langue que l'on veut apprendre, c'est la langue de la littérature. Et donc, du coup, on a des allusions à Don Quichotte en France ou en Angleterre, avant même les traductions françaises ou anglaises du livre.
Alors, en France, la première traduction, c'est 1615, un peu plus tôt.
C'est 1614.
1614.
Et 1612 en Angleterre.
Un peu plus tôt en Angleterre. Mais vous avez enseigné l'histoire rocambolesque d'une pièce tirée d'un chapitre de Don Quichotte qui a été représentée en Angleterre avant même que le livre ne soit traduit.
Absolument, il y a une synchronie plus ou moins. Dans l'hiver 1612-1613 est représentée à la cour une pièce qui a pour titre Cardenio. Cardenio étant une intrigue, le personnage, le héros d'une intrigue secondaire, d'un roman sentimental, on pourrait dire, dans le roman de Don Quichotte. Et cette pièce, dont il ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée, a attiré tout de même l'attention et a fasciné parce qu'au milieu du XVIIe siècle, un libraire voulait l'imprimer et il a donné le nom de ces deux auteurs, Fletcher et Shakespeare. Et c'est une pièce perdue de William Shakespeare.
On va laisser en suspens, en suspension, comme on disait au XVIIe siècle, cette pièce mystérieuse qu'on retrouvera à la fin de l'émission et à laquelle vous avez consacré un livre récemment chez Gallimard. Alors, Don Quichotte provoque tout de suite un écho, mais il se nourrit de souvenirs de beaucoup de livres plus anciens. Nous sommes ici dans l'adaptation de Claude Santelli, pour le petit théâtre de la jeunesse, au début de la première partie de Don Quichotte, on ne voit pas le personnage, on sait qu'il est déjà âgé, il est sec. Hein,
oui, il y a une description, un homme très grand, très sec.
Visage boucané.
Oui.
Enfin, les livres qu'il lit ne lui remplissent pas le ventre et vident peut-être sa bourse.
Comment va notre digne gentilhomme ?
Comme si vous ne saviez pas qu'il va travers, qu'il perd le bon sens dans tous ses livres de chevalerie.
Notre Hidalgo s'acharne tellement à sa lecture qu'il se dessèche le cerveau.
Chaque nuit, nous l'entendons qui se lève, qui arpente sa chambre et fait trembler les murs en criant « Je suis le Cid et le chevalier de l'ardente épée. Je suis Hercule, je suis le géant Morgan, je suis Roland et je suis Palmerin. » Tous ces livres dont son esprit est truffé, où croyez-vous qu'il les trouve ?
Il les achète, non ?
Oui, mais comment croyez-vous qu'il les paie ?
Dieu nous protège, je sens que c'est là que j'ai l'horreur.
Une malédiction, Don Corchuelo ! Notre homme ne troque-t-il pas des bons arpents de terre à blé contre des livres?
Hier encore, 8 arpents contre le roman du chevalier Plotin.
Oh, oui, ce matin. Oh.
Alors, quand l'entourage va perquisitionner la bibliothèque de Don Quichotte, on va voir apparaître tout goût ses titres, le chevalier de l'ardente épée, j'imagine que c'est un roman de chevalerie, Roland, là c'est un témoignage de la chanson de geste précédente. Et puis, parlons quand même de ce personnage, il n'est pas sans importance, Cervantes. Don Quichotte a dans sa bibliothèque un livre de Cervantes et dans tout livre est gravé le portrait de son auteur.
Oui, c'est le livre publié en 1585 par Cervantes, La Galatea, un roman pastoral. Et c'est le seul livre qu'il a publié avant 1605, c'est-à-dire avant la publication du Don Quichotte, ce qui renvoie bien à la biographie de Cervantes, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme de lettres, il n'est pas dans le milieu littéraire, c'est un soldat. Et son expérience la plus forte avant la publication de La Galatea et son essai à écrire des pièces de théâtre qui furent représentées, c'est 5 ans de captivité à Alger lorsqu'il a été capturé sur un bateau qui allait en Italie par les barbaresques. Et malgré 4 tentatives d'évasion, il passe 5 ans, il est racheté par l'ordre des Trinitaires. Et quand il revient en Espagne, il tente cette carrière des lettres avec la Galatea, mais le succès n'est pas là et pendant 20 ans, il va errer de métier en métier pour lever les impôts ou bien comme administrateur au service de la couronne.
Enfin, c'est pas un hidalgo impécunieux. C'est quelqu'un d'ailleurs qui tente de temps en temps de la prison pour prévarication. Et il est un petit peu plus vieux que Don Quichotte. Il a près de 60 ans. Hein.
Oui, absolument. Il est né en 1547.
La première partie du Quichotte.
Il est né en 1547, oui.
Alors revenons au livre de la bibliothèque de Quichotte à Mathis de Gaulle, déjà cité, dont Olivante, de Laura, Florissement, d'Hilarny. Alors ça, ce sont des romans de chevalerie, ou supposés tels. On parlait il y a peu de la légende du roi Arthur. Ça plaît beaucoup à la petite noblesse. Michel Pastoureau parle de névrose arthurienne.
Oui, d'un côté, on peut dire que c'est, les romans de chevalerie sont lus de la cour jusque dans le monde rural. Il y a une présence très forte dans tous les milieux sociaux. Mais, où Pastoureau a sans doute raison, c'est le fait que Don Quichotte est portraituré par Cervantes comme un hidalgo. Petite noblesse. Et une petite noblesse qui, au début du XVIIe siècle, est dépossédée de ses anciens pouvoirs militaires ou administratifs par la construction de l'État moderne et qui, comme on le voit ici, se ruine aussi par les revenus qui deviennent insuffisants. Et donc, du coup, il y a une nostalgie, un refuge dans le passé, un désir d'un âge d'or perdu que l'on pourrait ressusciter. Et c'est ce qui explique sans doute le fait que cette hidalgo que s'imagine comme un chevalier. Et donc, du coup, on a dès le titre l'hidalgo Don Quixote de la Mancha. Le don n'était pas possible pour un hidalgo. Ça n'appartient qu'à la plus haute noblesse.
Mais
donc, il y avait immédiatement dès le titre un effet d'ironie proposé par Cervantes à ses lecteurs.
C'est pas seulement une nostalgie passive, mais c'est une volonté active de s'élever jusqu'à un degré de noblesse qu'il n'avait pas. Et surtout, de vivre les situations comme les vivaient les héros des romans de chevalerie qu'il s'agit d'égaler, regardant de tous côtés s'il ne découvrait pas quelque château. Il aperçut de loin sur la route une auberge et sur le pas de la porte étaient deux jeunes femmes, de celles qu'on appelle faciles.
Vous dites que c'est un château?
Ne le vois-tu pas?
Ah ben, si vous le dites, c'est vous le maître.
Regarde Sancho. Là-bas devant la porte, deux jolies demoiselles pour nous accueillir.
Oh, vous l'avez laissé tomber.
Je vous en conjure, belle demoiselle, ne craignez nulle offense, car l'ordre de chevalerie que je professe ne m'autorise point à inquiéter de jeunes vierges de haut lignage telles que vous.
Vierge.
Ça fait longtemps qu'on nous appelle plus comme ça, mon prince.
C'est que, messeigneurs, malheureusement, tous nos lits sont pris par les charretiers. Mais si votre grâce consent à descendre de sa monture, je peux vous offrir à vous et à votre valet un bon dîner et un endroit où dormir.
Le seigneur Châtelain nous reçoit avec une extrême courtoisie.
Seigneur Châtelain. Je l'avais pris pour un aubergiste. Allez.
L'aubergiste joue le jeu.
Tout à fait, oui. C'est un coquin, cet aubergiste. Cervantes le décrit comme ayant passé de prison en prison et de mauvais lieu en mauvais lieu. Et il comprend immédiatement la folie de Don Quichotte, qui projette sur les réalités les plus concrètes une figure d'illusion, qui est celle du roman de chevalerie. Et en un temps, il espère en tirer profit, mais il s'aperçoit que Don Quichotte n'a guère de la bourse remplie. Et donc, du coup, il va en tirer du plaisir et du rire.
Mais vous dites la folie de Don Quichotte, alors que... J'insiste, c'est un choix de vie, mais faites évidemment le pari de lire le livre de manière comique.
Je dis la folie parce que c'est le mot qu'emploie très souvent Cervantes, locura, qui permet des jeux constants sur loco, le fou, et cuerdo, le sage. Et donc, du coup, il est décrit par ce terme, la folie consistant dans ce cas-là à penser que non seulement ce qui a été écrit dans les romans de chevalerie est vrai, ce que tous les autres personnages du roman sont prêts à croire, mais que ce qui est pensé, décrit dans les romans de chevalerie est vrai au présent. Et donc, du coup, que le déchiffrement du monde, malgré les apparences des réalités qui sont en fait une tromperie, qui sont en fait des illusions, correspond tout à fait avec ce qu'il a lu. Les filles de joie sont des demoiselles, l'auberge est un château, et le roman se déploie avec cela. Et alors, comme vous le dites, ce qui est là intéressant, c'est de voir les autres, puisque certains résistent et d'autres jouent le jeu.
Et l'écurie, sans doute a-t-elle été enchantée, c'est évidemment la salle où on veille avant l'adoubement, l'aubergiste devenant celui qui sacre chevalier Don Quichotte.
À genoux, monsieur. Promettez-vous d'être toujours digne de l'épée que je vais vous confier ?
Monseigneur, je vous le promets.
C'est bien. Sois toujours digne de l'honneur d'être en vie. De factus.
Me factus.
Cavalus.
Cavalus.
Maximus.
Maximus.
Chevalier, levez-vous votre épée.
Quels sont vos prénoms, mesdames?
Moi, c'est la Tolosa, parce que c'est à Tolède que j'ai commencé le métier.
La Tolosa. Splendeur parmi les splendeurs.
Et moi, c'est Marie Thorne, parce que je sers aussi bien en chambre qu'à la cuisine.
C'est bien, bien. Marie Thorne. Jusqu'à la mort, je me souviendrai de vos noms.
Vous avez été berné par les deux plus fiers fécatins qu'ait jamais enfanté la Castille.
Bon, je vous vois évidemment, Roger Chartier, feuilleter votre édition Canavaggio de La Pléiade. Nous, Jacques Sigal et moi, avons mêlé la version du film de Peter Yates et le grand feuilleton de France Culture historique, signé Alain Truta. Avec Olivier Husneau dans le rôle de Sancho Panza. Vous nous pardonnez d'avoir joué à plusieurs mains ?
Oh, plus que pardonner, puisque tout le propos du commencement de cette émission était de montrer qu'on s'est approprié du Don Quichotte avec une extrême liberté. Lorsque les auteurs de théâtre le transformaient une partie de l'intrigue ou l'intrigue entière en pièce de théâtre, il réécrivait effectivement des vers qui n'étaient pas le texte littéral de Cervantes. On peut dire que les traducteurs aussi, même s'ils sont restés assez fidèles au texte, ont aussi interprété. Donc je pense que le Quichotte est justement cet inépuisable réservoir de possibles réécritures.
Et de possibles théâtralisations, parce qu'il y a davantage de personnages dans les romans de chevalerie. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de chevaliers dans les romans de chevalerie, mais en général, ils évoluent seuls, tandis que Don Quichotte est toujours flanqué de symétriques ou d'antithèses.
Oui, alors d'une part, il y a le curé, le barbier, sa nièce, sa servante qui l'accompagne l'histoire, mais aussi, ça avait été reproché à Cervantes, il introduit dans le Don Quichotte, on l'a un peu oublié maintenant, des petites histoires secondaires, les unes complètement séparées, parce que c'est, par exemple, la nouvelle du curieux impertinent, qui est lu, qui est un livre qu'il trouve, un manuscrit, et que le curé lit aux autres personnages, et du coup, il le lit à nous par la même occasion. Et puis, cette histoire de Cardenio,
Ah, on y viendra tout à l'heure.
Oui, mais qui est une intrigue secondaire, qui est une histoire sentimentale entre quatre jeunes gens amoureux qui se perdent et qui se retrouvent. Et donc, on avait reproché à Cervantes d'avoir introduit des nouvelles à l'intérieur de son histoire.
Alors, en même temps que Cardenio va être représenté en Angleterre au tout début du XVIIe siècle, il y a à la cour de France, continuons à parler des adaptations théâtrales, ou des adaptations sur scène des ballets, des mascarades.
Oui, en 1614, avant même la traduction en français, il y a un ballet dansé au Louvre, peut-être par le roi, puisqu'à l'époque, les rois dansent, qui a pour titre le ballet de Don Quichotte. Et puis, peu de temps après, un autre qui s'appelle Les chercheurs de midi à 14h.
Les chercheurs de midi à 14h.
Avec Don Quichotte à l'intérieur du ballet.
C'est le moment d'écouter Jacques Brel. C'était inévitable et c'est mérité. 1968, création à la Monnaie de Bruxelles. C'est une adaptation d'une pièce, d'une comédie musicale américaine. Jacques Brel dans le rôle du Quichotte.
Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, une fin de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Et moi, je suis Sancho, 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 son valet. J'en suis fier.
Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, et le fin de l'histoire chante en moi.
Et j'en suis fier.
D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Don Quichotte aujourd'hui avec Roger Chartier. Vous ne savez pas qui a remplacé Dario Moreno dans la version du Théâtre des Champs-Élysées en décembre 68. Et vous êtes professeur au Collège de France, Roger Chartier. Eh bien, nous non plus, on ne sait pas. Donc, nos auditeurs, qui en général sont extrêmement érudits, vont certainement nous aider à résoudre ce mystère. Jacques Brel, il a beau avoir adapté une comédie musicale américaine, il donne, à cause de sa personnalité, de son style, de son engagement, il va perdre 10 kilos en 150 représentations, une interprétation assez romantique de Don Quichotte.
Oui, les premiers mots, insupportable monde. C'est-à-dire ici, la figure de Don Quichotte, qui est plutôt, et on l'avait vu dans les extraits précédents, traité à l'époque de Cervantes même comme une figure comique, s'est chargé, sans doute au cours du XVIIIe et plus encore du XIXe siècle, d'une dimension romantique, c'est-à-dire l'homme qui veut faire le bien, redresser les torts, réparer les injures dans cette terre. Et ceci n'est pas infidèle à Cervantes, dans la mesure où lorsque Don Quichotte décide de sortir de chez lui pour ses aventures, il le dit parce qu'il veut gagner de l'honneur et de la réputation, parce qu'il veut servir la République, la res publica, la communauté, et parce qu'il veut réparer toutes les injures. Et donc il y a cet aspect-là qui va ouvrir la voie à un Don Quichotte qui, au cours du XIXe siècle, sera souvent un titre pour des revues anarchistes, socialistes, critiques, et qui va devenir une sorte de héros malheureux, du désir d'un monde meilleur, mais qui se heurte à la méchanceté et à la violence.
Quand il partage son repas maigre avec de modestes chevriers, il les entretient de l'âge d'or disparu et nous sommes maintenant dans l'âge de peu, dans l'âge de fer. Mais ce n'est pas une lecture politique qu'il fait de l'âge de fer. Il dit que le grand drame, c'est que les choses visibles ont rompu avec les choses invisibles.
Oui, puisque lui, du coup, veut les remettre en adéquation par cette projection de la fiction sur le monde réel. Bien entendu, ce que je disais ne s'appliquait pas à ce que Cervantes, si tant est qu'on sache ce qu'il a voulu faire. Il n'avait pas l'idée d'un Don Quichotte révolutionnaire, mais le 19e siècle, si.
Une magie regrettable, à l'époque de Cervantes, avait fait des escadrons de soldats, des troupeaux de moutons, des géants d'autrefois qui n'étaient plus en lien avec l'invisible, de prosaïque moulin.
Prenez garde, géant ! Le combat est peut-être inégal, mais je me bats pour Dieu et Dame Dulcinée du Toboso !
Que vous le vouliez ou non, ce sont des moulins à vent.
Hélas, mon maître, ouvrez les yeux, mais revenez à vous. Vous êtes pour le moins rompu l'échine. M'entendez-vous, mon cher seigneur ? A-t-on idée aussi de charger des moulins avant ?
C'est toi, frère Sancho ?
Oui, c'est moi, votre écuyer. Pour l'amour de Dieu et de la dame du Toboso, ouvrez les yeux, remettez-vous.
C'est le nombre, et seulement le nombre qui m'a vaincu.
Mais hélas, mon maître, il n'est pas besoin de 40 moulins. Un seul suffit pour jeter dans les nuages le malheureux fou qui les attaque.
Ma défaite importe peu, frère Sancho.
Vous avez bien failli vous rompre les os.
Ma mort elle-même était sans importance. Ce qui importe, Sancho Panza, c'est qu'il se trouve toujours de par le monde un homme qui sent assez de générosité en lui pour combattre, fût-ce sans espoir de vaincre. Assez de richesse de cœur pour ramasser cette lance et reprendre le combat là où je l'ai laissé. En ce cas, Sancho, ton maître, même défait, mourrait victorieux.
Toujours le feuilleton du regretté Alain Truta avec Roger Blin dans le rôle de Quichotte. Et Sancho, c'est toujours Husneau, qui est très simple. C'est sa simplicité qui lui fait aimer Don Quichotte comme la peau de mon cœur, dit-il.
Oui, là, les rapports sont extrêmement complexes. Puis c'est des rapports de maître à serviteur. En même temps, c'est des rapports d'amitié. Et on pourrait même dire c'est des rapports de fiction, puisque Sancho croit et ne croit pas, partage et tient distance par rapport à Don Quichotte. Il y a quelque chose d'un peu parallèle à Sganarel et Don Juan dans ce couple. Et on peut imaginer des mises en scène ou des adaptations qui se focaliseraient sur le personnage de Sancho. Les moulins, c'est très important, puisque la première image qui a été inspirée par le texte de Cervantes, c'est l'image du combat contre les moulins à vent sur le frontispice d'une traduction française en 1620. Je voudrais juste te dire très rapidement un mot. Il me semble que, pour revenir sur la folie, à un moment donné, fantastique dans le roman, Sancho explique à Don Quichotte que Dulcinée, qui est une paysanne qui est forte à porter, à jeter les barres et qui est pas la plus belle des nymphes, est-ce qu'elle est ? Et Don Quichotte lui répond : « Je le sais très bien, mais je préfère la voir telle que l'a construit mon imagination. »
Ceux qui rêvent sont toujours gagnants, disait Jacques Brel.
Ce qui introduit l'idée que, peut-être une autre manière de critiquer le mot de folie, ce qui introduit l'idée que parfois il sait parfaitement que ce qui est, mais qu'il fait préférable de penser que ce qui est autrement.
C'est une sorte de première mort quand il est pensé par Sancho Panza après l'assaut contre les moulins. Il va y avoir, tout au long de Don Quichotte, beaucoup de morts, de petites morts successives de Don Quichotte, avant la mort finale, très peu connue, très peu représentée, à l'issue de la seconde partie de Don Quichotte. Cette seconde partie, qui apparut en 1615, on la connaît très peu.
Oui, elle est moins connue. Il y a le lecteur peut-être fasciné ou épuisé par la première partie. Il ne va pas jusqu'à la seconde. Cervantes n'avait peut-être pas l'intention d'ailleurs d'écrire une seconde partie en 1605. L'idée lui est venue progressivement. Elle a été renforcée par le fait qu'en 1614, un autre auteur dont on n'a jamais percé l'identité a écrit une suite, une seconde partie des aventures.
Et c'est ça qui l'a aiguillonné.
Ça l'a aiguillonné parce qu'il n'y avait pas de plagiat à l'époque. Ce qu'on pouvait faire, c'était écrire sa propre seconde partie.
Et dans la seconde partie, on voit le Don Quichotte arrivé par exemple chez le duc et la duchesse, précédé de sa réputation. Il est reconnu par un ecclésiastique de l'entourage du duc et de la duchesse qui dit « c'est Don Quichotte ». Et s'ensuit un processus de vérification ou de répétition des aventures.
C'est un autre vertige du texte de Cervantes, c'est-à-dire que les personnages de la seconde partie ont lu et commentent la première partie, et d'autre part ont lu et commentent négativement la continuation du dénommé Avellaneda. Et la scène finale est une très belle scène, la scène de la mort, qui est à la fois pour la volonté de Cervantes d'éviter que quiconque puisse se ressaisir à nouveau de ces personnages, et en même temps c'est le retour à... au nom propre, puisque nous avons parlé pendant toute cette émission de Don Quichotte. C'est le nom qu'il s'est donné lorsqu'il s'est fait chevalier errant. Mais il a un vrai nom, Don Quijano el Bueno, et qui est son nom d'Hidalgo. Et là, le retour à cette réalité est le fait qu'il répète par deux fois « Je ne suis plus Don Quichotte, je suis à nouveau Alonso Quijano, dit el Bueno. »
Mais vous êtes fasciné, Roger Chartier, par la circulation entre le livre et la vie, et Don Quichotte mourant, se confessant au curé, dit « J'ai vraiment eu tort d'avoir fourni autant de motifs d'aventures fausses à l'auteur qui m'a cru. »
Exactement. C'est une des dernières plaisanteries que fait Cervantes par rapport à cette continuation de Avellaneda.
Il y a les excuses de Don Quichotte mourant, il y a les aventures qui n'auraient pas dû avoir lieu et celles qui ne parviennent pas à avoir lieu. Alors, on a parlé du théâtre, on n'a pas parlé du cinéma. Il y a beaucoup d'adaptations au cinéma de Don Quichotte, un Orson Welles inachevé, et puis manque à la liste ce film qu'avait entrepris en 2003 le cinéaste Terry Gilliam.
L'incroyable série noire, avec dès le premier jour ces avions chasseurs qui s'invitent bruyamment chez Cervantes. Le plateau est situé près d'une base de l'OTAN.
C'était tellement la poisse que ça en devenait hilarant, comme si une malédiction s'abattait sur le film. Tant de catastrophes qui s'enchaînent, ça devenait comique.
Mais quand, le troisième jour, dans une région pourtant désertique où il ne pleut jamais, une tornade emporte avec elle tous les décors et les équipements, plus personne n'a envie de sourire. Le film tourne au naufrage. Terry Gilliam tente de faire face. Ultime coup du sort. Jean Rochefort, victime d'une double hernie discale, doit être opéré d'urgence et quitte le film, la mort dans l'âme. Son cheval, Rocinante, meurt le lendemain de son départ. La malédiction se poursuit. Après 5 jours de tournage, le film est définitivement arrêté et les compagnies d'assurance en récupèrent les droits.
Voilà, il y a le film qui ne s'est pas fait. Et on a laissé en suspens depuis un bon moment la pièce qui s'est jouée, dont le texte a disparu et qu'on peut quand même représenter de nouveau aujourd'hui et qui fait l'objet de toute une enquête que vous n'avez pas le temps de restituer. Ça paraît chez Gallimard, ce livre sur Cardenio, mais... Mettez-nous en appétit pour finir.
Oh, simplement, les textes perdus fascinent. Si les textes perdus sont signés, on le suppose, de Shakespeare, ils fascinent encore plus. Et si cette pièce attribuée à Shakespeare est une utilisation pour la scène de passages, de fragments d'histoires qui sont dans Don Quichotte, la fascination est à son comble.
Ça s'est passé en 1612-1613.
L'hiver 1612-1613, une pièce, Cardenio, représentée à la cour d'Angleterre. Pas de nom d'auteur dans le seul document qui atteste cela. Mais 40 ans plus tard, un libraire imprimeur veut imprimer des pièces de théâtre. Les théâtres sont fermés à cette époque-là, c'est la Révolution anglaise. Et dans la liste, on trouve « The History of Cardenio », l'histoire de Cardenio par Fletcher et Shakespeare.
Mais cette pièce, elle a été représentée de nouveau au début du 18e, vers 1727.
Un auteur du 18e siècle, qui était aussi un éditeur de Shakespeare, prétendait avoir des manuscrits de la pièce perdue. Et il fait une adaptation pour le théâtre.
Je ne comprends pas bien. Vous partez à Indianapolis, aux États-Unis, pour aller voir une représentation de cette pièce qui n'existe pas.
Parce que certains des Shakespeareens, critiques, éditeurs, utilisant ou non cette pièce du XVIIIe siècle, ont reconstruit leur propre Cardenio. Certains l'ont écrit et d'autres, comme Gary Taylor, en ont fait une adaptation.
À moins que vous le confondiez, vous aussi, la fiction et la réalité.
Pour l'amour de Dieu, n'approchez pas à longueur de ma lance, car il y aura du sang dans les étoiles.
Merci à vous, Roger Chartier. Lundi, nous parlons de la transformation du monde paysan en France autour des années 1960. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguy à la réalisation, Jacques Sigal à la technique, Alexandre Chenet.